Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 août 2024 et la semaine qui vient de se terminer, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant après une journée de ski, que vous mangez une soupe de moule au safran pour vous réchauffer, qu'ensuite vous vous envoyez deux fondus moitié-moitié, vous terminez avec une coupe Danemark double chocolat. Vous savez que ça peut passer, mais vous savez aussi que ça peut vous peser sur l'estomac pendant les 5 jours qui vont suivre. Donc grosso modo, c'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui. On s'en est sorti relativement bien, puisque finalement, quand vous regardez les performances de la semaine, on voit même pas ce qui s'est passé en début de semaine. Il y a encore la volatilité, qui a encore un bout de chemin à faire pour revenir à la normalité. Mais pour l'instant, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes à nouveau, puisqu'on a oublié les sujets qui nous faisaient peur la semaine dernière. On a oublié la thématique de la récession et nous sommes repartis comme au bon vieux temps dans nos thématiques inflationnistes. Et puis ça tombe bien parce que l'inflation, on va en parler toute la semaine. Donc oui, vous l'avez vu et vous allez le voir ces prochains jours. Nous sommes passés de la lutte contre la récession, des peurs de récession, et on est revenu déjà en fin de semaine sur la thématique de l'inflation. Parce que oui, il y a eu les chiffres des jobless claims jeudi dernier, et ces chiffres-là nous ont rassurés parce qu'ils étaient moins pires que ce qu'on attendait, pas extraordinaire, mais moins pire que ce qu'on attendait, et ça nous a suffi pour se trouver à nouveau de bonne humeur et plein de joie en se disant que dans ces conditions, bah oui, la Fed allait baisser les taux. Alors, donc ces chiffres des jobless claims nous ont rassurés. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas pour l'instant, on était rassurés et on s'est dit qu'on pouvait repasser à autre chose. Le sujet de la récession, le sujet du carry trade a été complètement oublié, puisqu'on a compris que de toute façon, la Banque du Japon, ils ont pas le courage d'aller contre les marchés, puisque tout ce qui dérange les marchés, on va pas faire. Donc, a priori, dans l'immédiat, la hausse des taux au Japon, c'est pas la question principale. Et puis, aux États-Unis, eh bien, quand on a vu que finalement, on était un petit peu moins inquiet de cette thématique de carry trade, un petit peu moins inquiet de cette thématique de récession, on s'est dit que finalement, oui, ils allaient baisser les taux en septembre, mais de 0,25 et pas de 0,5 comme on craignait encore il y a quelques jours en arrière. Alors, grosso modo, si on doit résumer ça en quelques mots, on est donc passé de on aime bien les mauvaises nouvelles parce que les mauvaises nouvelles, ça veut dire que l'économie ralentit et que donc l'inflation va baisser, va rejoindre le target des 2% et donc M. Powell va pouvoir baisser les taux. Hein. On n'aime pas les mauvaises nouvelles parce que les mauvaises nouvelles, ça veut quand même dire qu'on pourrait finir en récession, un de ces quatre. Donc du coup, pour l'instant, le trou d'air de la semaine passée est donc comblé. On se dit qu'a priori, le sujet du carry trade est mis de côté. Nous, ce qui nous importe pour l'instant maintenant, c'est le fait qu'on ne va pas aller en récession. A priori, depuis jeudi dernier, on est plutôt certain de ce côté-là. Évidemment, on peut tourner la veste à la vitesse de la lumière. On sait très bien qu'en ce moment, si on pouvait générer de l'énergie avec les tournages de veste à répétition, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème du réchauffement climatique et qu'on aurait trouvé bien d'autres solutions que les énergies fossiles. Mais aujourd'hui, la grande préoccupation, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette thématique de l'inflation? Oui, parce que cette semaine, il y a le CPI, il y a le PPI. Donc, on va repasser de nouveau dans une de ces semaines où on se dit « Oh, ben alors cette fois, c'est cool parce qu'on va tout savoir sur l'inflation. » Une fois que M. Powell aura pu lire les chiffres du CPI et que nous, on aura pu les interpréter. Donc, la grande nouvelle que l'on va attendre, ce sera les chiffres du CPI de mercredi. Parce qu'encore une fois, comme à chaque publication des chiffres du CPI, on pense ou on espère que tout va changer. Donc ce matin, si on réfléchit assez rationnellement, on va commencer la semaine avec un moral tout neuf. D'abord parce qu'on sait que les taux vont baisser de 0,25% le 19 septembre. C'est une certitude. Donc pour mémoire, mercredi dernier, on pensait qu'il allait falloir baisser les taux de 0,5% pour pouvoir lutter, voire empêcher la récession d'arriver. Tout ça, c'est oublié. Maintenant, on sait que le 19 septembre, ce sera 0,25% de baisse. Bon, sachant qu'entre deux, il y a Jackson Hole, donc tout peut arriver. Donc oui, encore une fois, bien sûr, tout ce qui va nous arriver entre maintenant et le 22 août pourra nous faire éventuellement changer d'avis. Mais en tous les cas, là, maintenant, à l'instant où je vous parle, à peu de choses près, on est presque sûr. Enfin, ça devrait arriver. Enfin, normalement, a priori, on devrait baisser de 0,25%. Au mois de septembre. Pour le carry trade, c'est réglé, je vous l'ai dit, la Banque du Japon, elle s'est déballonnée. JP Morgan nous a quand même trouvé un chiffre, c'est que 50% du global du carry trade a donc été déjà réduit. Donc déjà, d'un côté, c'est ça de volume en moins qui va devoir se dissiper dans les marchés. Donc ça, c'est plutôt rassurant. on va dire, a priori, mais ça veut aussi dire qu'il y a encore 50% qui peut arriver sur les marchés et qui pourrait faire trembler les marchés. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être notre souci principal, de toute manière, puisqu'on a bien compris que les banques centrales étaient nos amis et que si on avait encore un doute sur le fait que les banques centrales n'étaient pas là uniquement pour soutenir les marchés, bah depuis la semaine dernière, le doute a été clairement levé. Donc on va essayer de se remettre dans le mood de là où nous étions il y a quelques semaines, à savoir de se dire la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir quel chiffre est capable de donner le dernier coup de pouce à M. Powell pour qu'on ait cette quasi-certitude. Avant la problématique du carry trade, nous étions à 100% de probabilité de voir baisser les taux en septembre. Aujourd'hui, on y est toujours, mais on ne sait pas trop de quelle amplitude ça sera. Et on a quand même 2-3 petits doutes sur les conséquences politico-économiques que cela pourrait avoir sur les marchés. Donc, a priori, ce matin, on fait les malins, comme si c'était rien passé la semaine dernière. La vol est toujours à 20%, la VIX. Hein. Donc, attention, ça va encore dire que... Il y a encore un tout petit peu de stress dans les marchés, mais on va se concentrer bien sûr sur cette fin de saison des résultats et sur les chiffres du CPI, de l'inflation, qui vont encore nous donner une vision, pas laquelle, mais une vision sur ces prochaines semaines. Puisque l'on parle d'inflation, il y a un graphique que je voulais vous montrer, alors c'est pas très important là tout de suite dans l'immédiat, mais c'est les changements des prix depuis janvier 2000 jusqu'à juin 2024. Hein. Donc 24 ans de variation des prix dans l'économie. Alors vous voyez sur ce graphique, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que la plus grosse augmentation de ces 24 dernières années, c'est les services hospitaliers qui sont en hausse de 256%, les frais de collège, les frais d'éducation qui sont en hausse de 187%. Et puis vous voyez que évidemment la garde d'enfants est en hausse de 140%. Alors, quand vous voyez qu'entre les gardes d'enfants et les collèges, on se demande s'il faut encore faire des enfants. En tout cas, ça est la question qu'on peut se poser. Et puis vous voyez que l'augmentation des salaires sur ces 24 dernières années est tout de même de 118,5%, mais ça comble pas tous les trous. La hausse des logements finalement sont de 100% sur 24 ans. La bouffe de 100% également. Par contre, après, effectivement, vous le voyez, il y a des bonnes nouvelles. Ça coûte un peu moins cher de se fringuer et puis les téléphones portables sont moins chers. Ça, c'est rassurant parce que finalement, qu'est-ce qu'on ferait sans nos téléphones portables? Et puis la TV, bien sûr, ne vaut plus rien, mais ça, c'est pas une surprise. Pour le reste, eh bien, la saison des chiffres trimestriels touche à sa fin. On a eu les grands noms, vous le savez. Cette semaine, il y a encore beaucoup de chiffres, mais il y a surtout les chiffres des retailers. Hein, donc tout ce qui est vente de détail, les Walmart, les Home Depot, etc., etc. Alors, les chiffres devraient être corrects parce que les analystes sont très forts, ils ont très bien anticipé les choses. Mais là où il faudra faire très attention, c'est si ces sociétés-là viennent nous donner un petit peu une idée de comment se comporte le consommateur. Parce que rappelez-vous, je sais que la mémoire est courte, mais il y a quelques semaines en arrière, on se rendait compte quand même que les changements de consommation étaient vraiment de plus en plus fréquents. Il y a encore un chiffre qui est sorti ce week-end, c'est le nombre de ventes dans les magasins de golf aux États-Unis qui sont en chute libre depuis quelques temps. Donc on voit que les gens sont en train vraiment de changer leurs habitudes de consommation et ce sera hyper intéressant d'observer ce que vont nous dire les retailers cette semaine là-dessus. Donc beaucoup de chiffres des retailers, vous avez le tableau des publications qui s'affiche devant vous. Donc mis à part les retailers, eh bien vous voyez qu'on aura quand même des Barrick Gold par exemple qui devrait avoir vécu une belle période vu le prix de l'or en ce moment. Il y aura Cisco qui publiera mercredi aussi. Cisco qui a annoncé encore des licenciements ce week-end. Et puis évidemment, comme je vous dis, il y aura des Walmart, il y aura des John Deere et il y aura l'UBS qui publiera cette semaine également. UBS qui d'ailleurs a réitéré son target à 5900 et des poussières sur le S&P 500 pour la fin de l'année parce qu'ils sont plutôt sereins, comme quoi l'économie est parfaitement sous contrôle et qu'on va en direction, bien sûr, d'un soft landing. Et puis, petit chiffre de la journée qu'il faut toujours retenir, je sais que tout le monde s'en fiche, mais retenons-le quand même, c'est 1140 milliards, c'est un nouveau plus haut historique, c'est le plus haut historique de la dette des cartes de crédit aux États-Unis. N'oublions pas encore une fois que le taux d'intérêt sur les dettes de cartes de crédit aux États-Unis est de l'ordre des 23%, comme ça on va être gentil parce que je sais qu'il y en a qui sont bien au-dessus de ça. Eh bien, on n'a jamais été aussi haut en termes d'endettement sur les cartes de crédit. Les gens ont de plus en plus de peine à rembourser leurs échéances. Il y a de plus en plus de faillites liées aux cartes de crédit. Là aussi, les chiffres sont en augmentation. Donc, il ne faut pas oublier, pas négliger ce genre de choses. Ça pourrait quand même avoir un impact, bien sûr, sur la consommation, mais également sur l'état psychologique et d'envie de se battre de la part des Américains. Ça, on n'en parle pas assez. L'endettement des prix des ménages et l'endettement du gouvernement, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais l'endettement des ménages, on n'en parle pas assez parce que ça devient vraiment de plus en plus problématique. On n'a jamais vu des taux pareils. Il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, quand vous ne remboursez plus roulent vos cartes de crédit. Alors, vous risquez la faillite personnelle, mais le problème, c'est que votre credit score chute immédiatement. Et alors, une fois que le credit score a commencé à baisser aux États-Unis, pour vous relever, ça devient très, très compliqué pour reprendre votre place dans la société. Donc ça, c'est jamais des choses extrêmement rassurantes. Mais bon, bonne nouvelle, le marché, pour l'instant, s'en fout complètement. Parlons un peu politique, puisqu'on a vu aussi ce week-end que les sondages pour l'élection américaine, l'élection du président américain, était en faveur de Kamala Harris, elle était passée en tête. Alors on voit que les Américains sont vraiment désespérés parce que finalement, bon, ils veulent vraiment pas Trump, hein, visiblement. Il y a vraiment une peur de voir revenir Trump. Alors, de toute façon, je pense depuis le début que les Américains ont le choix entre la peste et le choléra. Mais là, avec l'arrivée de Kamala Harris et de son nouveau vice-président Tim Walz, c'est plus la peste et le choléra, c'est un truc bien pire. Madame Kamala Harris n'a aucune compétence en économie. Enfin, faut bien le comprendre, elle est absolument nullissime. Et puis son vice-président, la seule chose qu'il connaît en économie, c'est taxer, taxer, taxer et taxer. Donc on aura l'occasion d'en reparler ces prochains temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'étais américain, j'aurais tendance à vouloir plutôt envisager de demander l'asile politique pour immigrer au Mexique ces prochaines années. Et puis les Jeux Olympiques sont terminés, voilà, la magie des JO est terminée en France, il va falloir retourner au boulot et retourner se poser des questions pour savoir ah bien, qui sera le Premier ministre. Alors la gauche va revenir dès ce matin pour dire « Oui, on a gagné les élections, il faut nous donner un Premier ministre ». Alors celle qui nous ont trouvé, elle est superbe, hein, elle aussi, elle parle que de taxer, taxer, taxer. Donc si vous pensiez que la France était en enfer fiscal avec la nouvelle Premier ministre de gauche, eh bien ce serait encore pire qu'avant. Enfin bref, pour l'instant on n'est pas là parce que comme il y a les Paralympiques, on n'exclut pas la possibilité que Macron il botte encore en touche parce qu'il va s'exciter encore sur les JO. Mais en tous les cas, la rentrée post-Jeux Olympiques, c'est aujourd'hui en France. On repart de la future victoire de Kamala Harris aux États-Unis. On va pouvoir se reconcentrer sur des choses qui sont vraiment intéressant. Pour le reste, ce matin, alors il n'y a pas de chiffres économiques aujourd'hui, il y a quelques chiffres trimestriels, mais ce n'est pas ce qui va faire bouger les marchés. Le Japon ne fait rien, mais non, rien du tout ce matin. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé au Japon. Quand vous regardez le graphique du Nikkei, on s'est pris 12% dans la tête lundi dernier, on a tout récupéré derrière, et la performance nette sur une semaine, oh, ben non, il ne s'est rien passé. Pourtant, il s'est quand même passé des trucs. On a compris surtout que, et surtout un truc qu'on a compris, c'est que la volatilité, elle pouvait toujours revenir d'un instant à l'autre. Et quand ça revenait, ça faisait très très mal. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Et bien sûr, moi je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo explicative du carry trade qui est paru ce week-end pour remplacer le Swiss Bliss. Alors je me suis fait allumer parce que je suis venu trop tard pour faire une vidéo sur le carry trade. Bah, je suis en vacances, hein, donc j'essaie de faire au fur et à mesure. Néanmoins, n'oubliez pas d'aller voir cette autre vidéo, vous trouverez le lien en dessous, et puis de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour voir si on a bien tenu le choc en ce premier lundi où on doit de nouveau repartir sur la thématique de l'inflation. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.